Bonjour et bienvenue en ce lundi matin à l'émission Les Voix de service. C'est Diane Pilote au micro en compagnie de
Jean-Charles. Bonjour.
Tout simplement, Roger est dans son banc de neige.
Oui, c'est ça. Comme beaucoup.
Et Jean-Sébastien va réussir à sortir, lui, de son banc de neige.
Yeah!
Ça sera le sujet principal de la conversation aujourd'hui dans toutes les entreprises. Je suis convaincu, les Québécois ne parlent que de la température. Mais là, ils auront une bonne raison d'en parler.
Ouais.
Alors, Jean-Charles, pendant cette... parler de quoi?
Alors, je vais vous entretenir des touristes qui sont un peu naïfs et inconscients et qui sont adeptes du couchsurfing en Afghanistan.
Oh!
Oui, oui, il y en a.
J'en ai eu chez moi, des couchsurfers.
Oui. Et là, ben oui, c'est vrai. Après, ben, c'est ça. Ensuite, un petit rabais vous fera peut-être changer d'idée. Ça, c'est en matière de consommation et de voyage. Alors, pendant la petite heure, j'aurai peut-être des petits raclements de gorge. Désolé, c'est la saison. Et puis, je vous entretiendrai des chiens à la CEPAC qu'on a autorisé à gambader dans certains parcs depuis quelques temps. Et on fait un petit rapport là-dessus. Et puis, si on a le temps, je vous entretiendrai des vacances à la plage qui sont-elles menacées par le temps, l'érosion?
Pour ma part, j'ai reçu, dans cette première demi-heure, j'ai reçu le tout nouveau Tour du Québec, le numéro 2. Vous savez que j'aime bien faire rêver et voyager les auditeurs autour du Québec. Donc, je ferai la présentation de ce deuxième numéro. Et également, j'aurai un texte « Réchauffer les mollets, mais ne pas réchauffer la planète ». Alors, cette magnifique, je ne sais pas comment l'appeler, c'est un livre, une revue, c'est le Tour du Québec. C'est publié par la revue Voir et l'actualité, c'est le numéro 2. Je vais tout simplement, pour mettre la table, vous lire le mot de Simon Jaudoin qui présente ce deuxième numéro. Et vous allez voir, c'est de circonstance, la chaleur du froid. Lorsque les Québécois parlent d'eux, l'hiver n'est jamais bien loin, le froid aussi surtout. On a beau râler sur la température, rager lors des tempêtes tardives qui nous poursuivent jusqu'au printemps, pester contre tous ces cocktails météo qu'on nous annonce toutes les semaines, toute cette froidure nous rend plutôt fiers. Ça ne manque jamais. Avouons que nous aimons bien sourire et nous moquer lorsqu'on entend que Paris est englouti sous la neige alors qu'elle a reçu 3 cm ou que New York est paralysée à la suite d'une chute de 6 flocons. Voilà, nous, on n'a pas peur de ça, quelques degrés sous zéro ou quelques couches de verglas. On sait c'est quoi l'hiver, nous autres. Cette fierté a des racines profondes historiquement aussi. On ne peut s'empêcher de penser qu'il fallait de fameuses têtes dures pour venir s'installer ici, trouver le moyen de se chauffer, cultiver une terre qui est gelée 6 mois par année, tricoter des bas de laine et parcourir le territoire par tant de grands froids. Il m'arrive assez souvent de discuter avec des étrangers qui sont venus nous visiter en voyage pendant la saison hivernale. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils gardent en souvenir, le froid est presque toujours mentionné. On se souvient du froid comme d'un paysage mémorable ou d'un mets qu'on a savouré. Voilà, le froid nous définit, il nous identifie, il parle de nous et il raconte un peu qui nous sommes. C'est un peu au Québec notre image de marque. C'est quelque chose qui nous tient ensemble et paradoxalement qui évoque une sensation de chaleur. C'est le froid qui nous invite à nous asseoir autour du feu, à chauffer le poêle et à passer de longues soirées à veiller dans la cuisine. Au Québec, on connaît la chaleur du froid. Dans ce second numéro de Tour du Québec, nous vous invitons à découvrir cette chaleur toute particulière. Cette couverture, c'est une courte pointe, un assemblage de plusieurs bouts de tissu qu'on raccommode, un patchwork, comme on dit des Anglais. Avec toutes ces histoires de gens différents, situés aux quatre coins du pays, et un fil conducteur pour tenir tout ça ensemble, vous aurez de quoi vous tenir au chaud. Mais n'oubliez pas, avant de vous envelopper bien confortablement, il faut aller jouer dehors. Vous ne pourrez apprécier la chaleur du froid que si vous allez prendre l'air. Vous pourrez en profiter pour partir à la rencontre de tous ces artisans qui, au jour le jour, tissent cette grande toile sur laquelle se dessinent nos paysages. Et après tout, quand on y pense, faire le tour du Québec, c'est au fond demeurer bien au chaud, à la maison, même en hiver. Et je vous rappelle les repères de cette revue Tour du Québec, donc les repères que je vous lirai pendant la saison. Ce sont terroir, territoire, à boire, pignon sur rue, culture, resto. Voilà, c'était le texte de Simon Jaudoin qui préparait ce Tour du Québec, volet numéro 2.
des touristes naïfs et inconscients adeptes de couchsurfing en Afghanistan. C'est de l'agence France Presse Kaboul, Alison Jackson. Le néerlandais Karian Bar souhaitait une expérience authentique, entre guillemets, pour son voyage en Afghanistan, en guerre depuis bientôt 4 décennies. En dépit des risques, il a décidé de visiter le pays en routard et de loger chez l'habitant via le site couchsurfing.com. Malgré l'insécurité et une forte défiance en Afghan, façonné par tant d'années de conflits, près de 2000 d'entre eux, très majoritairement des hommes, proposent leur domicile sur cette plateforme qui met en relation voyageurs et des gens du cru prêts à les héberger gratuitement. Le site internet, créé il y a une quinzaine d'années aux États-Unis, a essaimé au niveau mondial. Vous avez l'impression d'avoir un ressenti plus authentique de la ville. Vous n'êtes pas enfermé dans les pièges touristes, explique Karian Bar depuis Kaboul, où il a dormi depuis plusieurs nuits sur un matelas déroulé à même les tapis de son hôte. Avant de poursuivre, plein d'ironie. Mais ce n'est pas comme s'il y en avait en Afghanistan, des touristes. Étape obligée du parcours hippie entre Europe et Asie du Sud dans les années 70, le pays a vu le nombre de ses visiteurs s'écrouler dans les années de lutte armée. Depuis l'invasion soviétique en 1979, l'Afghanistan n'a jamais vraiment connu la paix. Mais des dizaines d'étrangers se lancent malgré tout chaque année dans un dangereux périple à travers le pays, ignorant les appels de leur gouvernement à rester à l'écart d'un conflit considéré comme le plus meurtrier au monde, avec plus de 10 000 civils tués ou blessés en 2017. Pour ces routards, le fait d'être hébergé chez l'habitant leur évite de dormir dans des hôtels transformés en forteresse, avec gardes armés et portes blindées. Loger chez des gens et s'habiller de manière à passer inaperçu permet de voyager en Afghanistan sans prendre trop de risques, affirme Karian Bar, vêtu d'un chalwar kameez, un pantalon et une tunique ample à la mode afghane. Le couchsurfing est de fait une version moderne de l'hospitalité à l'afghane, qui traditionnellement oblige ses habitants à fournir un abri et le couvert aux gens de passage. Mais dans un pays où les enlèvements crapuleux contre rançon pullulent et où les étrangers représentent des cibles de choix, les routards ne peuvent se faire une idée de leur hôte que grâce à son profil en ligne. Vous pouvez finir chez un taliban, avertit un diplomate en poste à Kaboul, impliqué dans la libération de victimes de kidnapping. C'est naïf et inconscient. Caitlin Coleman et Joshua Boyle, un couple américano-canadien qui voyageait sac au dos en 2012 en Afghanistan, en ont fait la mère expérience. Enlevés par des talibans puis remis au réseau extrémiste Haqqani au Pakistan, ils n'ont été libérés que 5 ans plus tard, en 2017. Leurs 3 enfants sont nés en captivité. Rencontré à Kaboul, le Norvégien John Borg Augustad, qui dit avoir déjà pratiqué le couchsurfing en Irak et en Centrafrique, estime pourtant les gouvernements occidentaux trop prudents. Il faut être malin, être en contact avec quelqu'un du cru est la meilleure manière d'être en sécurité, clame cet homme qui s'est fixé comme objectif de visiter tous les pays du monde avant son 30e anniversaire cette année. Cela fait partie de l'expérience culturelle, poursuit-il, de voir comment les gens vivent, d'écouter leurs histoires et de comprendre le pays dans lequel on se trouve. Pour les Afghans avides de nouvelles expériences, mais qui peinent à obtenir des visas dans d'autres pays, héberger un étranger permet de voyager par procuration. « Cela me permet d'avoir plus d'amis et de mieux connaître le monde », s'enthousiasme Nazer Majdi, qui a hébergé 6 personnes depuis qu'il s'est inscrit sur couchsurfing.com en 2016. Je peux aussi leur faire voir la beauté de ce pays, poursuit-il. Ses proches l'ont toutefois mis en garde à de nombreuses reprises contre cette activité qu'il juge très risquée pour lui comme pour ses invités. L'Afghanistan n'est pas aussi dangereux qu'il en a l'air, remarque Elias Ariari, 19 ans, qui a accueilli chez lui des visiteurs du Canada, de Russie, du Mexique et de Taïwan. John Bourne, Augustad, reste pourtant réaliste. Les choses peuvent bien se passer 9 fois sur 10, reconnaît-il. Il suffit d'une fois pour que ça aille mal. Mais jusqu'ici, ça n'a pas été le cas. Nous avons été aussi chanceux.
Le ciel tisse une couverture en laine. L'été prépare ses quartiers d'hiver. mais n'aie pas peur de la froidure, Hélène. Je te réchaufferai, je te réchaufferai. Allons rêver sur les bords de la Seine, s'il reste encore quelques petits coins verts. Et si le fond de l'air est frais, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. En passant mon bras autour de ton épaule, et si malgré mon bras la brise travaille à bien jouer son rôle, tu prendras mon chandail. Si le temps, malgré mon chandail de laine, venait troubler le calme de ta chair, en te serrant tout contre moi, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. Mais si le vent soufflait à perdre haleine, nous irions vite abriter notre amour. Et blottis dans notre grenier, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. Je fermerai fenêtres et persiennes, je bouclerai la porte à double tour. Et en faisant une flambée, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. En offrant au feu tout le bois qu'il réclame, et s'il manque du bois, je mettrai aussi nos meubles dans les flammes, ne gardant que le lit. Mais si le froid contre nous se déchaîne, et si le feu n'était d'aucun secours, par la chaleur de mon amour, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. Le ciel tisse une couverture en laine, le soleil fuit lorsque l'hiver paraît. Mais n'aie pas peur de la froidure, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai.
Monsieur Aznavour et la pièce « Je te réchaufferai ».
Eh bien, dans Le Voir, ce n'est pas Hélène qui nous réchauffe, mais c'est bien Marie-Ève Roy, qui est une costumière de métier et qui a décidé de quitter la métropole pour Granby, un terreau fertile pour les entrepreneurs et les artistes. Ce texte est signé Stéphanie Chicoine. Une fois sortie du Collège La Salle en design de costumes, Marie-Ève cumule les contrats saisonniers avec l'Opéra de Montréal. L'arrivée de son premier garçon au même moment la pousse à vouloir sortir de la métropole. Après un périple de ski dans les cantons de l'Est et une nuit dans un hôtel de Granby, elle tombe en amour avec cette ville vibrante, bordée par la nature et les grands espaces. Elle retourne à Montréal avec en tête ce projet de s'installer en région et de changer d'air. Un événement du quotidien provoque chez Marie-Ève une idée qui deviendra, inconsciemment, l'élément déclencheur de la création de son entreprise. « Un jour, dit-elle, je me rendais à l'épicerie avec mon fils et il avait les mollets à l'air dans sa poussette. Il faisait trop froid pour ne rien mettre, mais trop chaud pour enfiler une salopette. Je lui ai donc mis mes jambières et les gens trouvaient ça ben hot. Je suis donc revenue à la maison et je lui ai fait des jambières à sa taille avec des vêtements que j'avais. » En 2012, elle déménage à Granby et s'inscrit à l'entrepreneuriat au féminin, une formation offerte par le Centre d'aide aux entreprises de la Haute-Yamaska. Cette expérience lui permet de participer au marché de Noël de Granby pour effectuer une étude de marché. Sa petite production de jambière s'est envolée en un rien de temps. Les mollets frisquets voient officiellement le jour. Marie-Ève a élargi son offre de produits avec des foulards printaniers, des poignets et des manches, ainsi que des sacs à tapis. Ce sont des tapis de yoga avec pochettes de rangement faits à partir de tissus de recouvrement. Des ateliers sont également offerts aux curieux et curieuses qui souhaitent mettre la main à la pâte dans la confection de leurs jambières. Malgré la croissance fulgurante des mollets frisquets, Marie-Ève se garde une petite gêne quant à l'expansion de son entreprise. Exit le stress et la surcharge de travail, bonjour la créativité et la diversité des tâches. Auparavant, je voulais tout faire. Je passais moins de temps avec mes enfants, Je me vois simplement faire moins de salon, faire moins de gestion et plus de création. Je veux remettre la main à la pâte avec la photographie et mon site web, entre autres. La consommation responsable est au cœur de la mission sociale des Mollets Frisquet. Les produits sont faits à 100 % de textiles recyclés afin de réduire la quantité de tissus jetés au rebut. J'ai même de la misère à acheter des vêtements usagés pour remplacer quelque chose qui fonctionne encore. Je ne suis pas une jeteuse. Tu sais, pour ma maison, c'est ben correct, une télé cathodique. Elle fonctionne encore, avoue-t-elle en ricanant. Elle s'approvisionne en textiles dans les centres d'entraide, comme SOS Dépannage, dont tous les profits sont investis dans les banques alimentaires. L'été, puisque les centres offrent principalement des vêtements estivaux, elle fait un tour au village des Valeurs pour dénicher les perles rares en laine qui composeront les jambières, manches et poignets de la prochaine saison hivernale. Le magasinage de vêtements usagés s'avère une partie de plaisir pour l'entrepreneur. Dans un magasin de tissus, j'angoisse. Je ne suis pas bien. Je ne vois pas le potentiel pour mes confections. Emmène-moi dans une friperie. Là, je vais voir des chandails écœurants pour mes jambières. Son implication dans la communauté lui a d'ailleurs valu le prix Implication sociale lors du gala Génération Avenir en 2016. Le site web des Mollets Frisquet, pour ceux qui veulent aller voir et en commander, c'est très beau dans les cantons de l'Est. Ce sont en un mot les Mollets Frisquet, donc LESMOLLETS, FRISQUET.com. Et si vous voulez la communiquer avec Marie-Ève, 450-577-6105. Voilà, c'est un texte de Stéphanie Chicoine qui nous parlait des Mollets Frisquet à Granby.
Un rabais vous ferait-il changer d'idée? C'est de l'agence France-Presse. Vous avez une opinion assez défavorable sur un produit, un service ou une destination touristique. Est-ce qu'un rabais vous ferait changer d'idée? La compagnie aérienne Aeromexico a récemment lancé une campagne plutôt audacieuse auprès d'Américains du Sud-Ouest qui ont des préjugés envers le Mexique. Un résultat étonnant. La publicité d'Aeromexico est devenue rapidement virale. La vidéo de 2 minutes s'amuse des préjugés des Américains contre le Mexique et démontre à des Texans qu'ils ont une part de sang mexicain. La campagne vise à encourager les Américains à se rendre au Mexique en utilisant les vols Aeromexico. L'équipe du film s'est ainsi rendue à Wharton, une petite ville du Texas située non loin de Houston, pour interroger plusieurs de ses habitants qui affirment tous qu'ils ne souhaitent pas voyager au Mexique. « Laissez-moi rester ici en paix et laissez ces gens rester de leur côté de la frontière », réagit notamment un homme coiffé d'un chapeau de cow-boy. L'équipe propose alors aux mêmes personnes, toutes blanches, de réaliser un test ADN dont les résultats montrent qu'ils ont tous une part d'origine mexicaine. Ce qui n'est pas surprenant dans cet état frontalier qui faisait officiellement partie du Mexique jusqu'en 1836. Prévenus du fait qu'ils ont du sang mexicain, les habitants de Wharton réagissent souvent mal et certains affichent ouvertement leur contrariété. L'équipe leur annonce alors qu'Aeromexico leur offre un pourcentage de réduction sur leur prochain vol à destination du Mexique en fonction de la proportion de sang mexicain qui coule dans leurs veines. Le rumeur change instantanément et l'un d'eux, qui avait pourtant réagi avec un retentissant « that's bullshit », alors qu'on lui annonçait qu'il avait 22% de sang mexicain, demande même si sa femme peut également bénéficier de la réduction. Point d'orgue. Une femme prénommée Betsy, dont les résultats montreraient qu'elle n'a que 3% de sang mexicain, semble frustrée à l'idée de ne pas bénéficier d'un rabais plus important, elle qui peu avant ne voulait pas mettre les pieds au Mexique. Sollicitée par l'agence France-Presse, notamment au sujet des personnes qui apparaissent dans le message publicitaire et la nature des tests ADN, Aeromexico n'a pas donné suite. Sur son compte Twitter, Aeromexico a par ailleurs précisé qu'il ne s'agissait pas d'une promotion ouverte au public. We'll be right back.
la formation de Herb Alpert avec le Mexican Shuffle.
C'est ce que je cherchais, j'entendais cette musique quand j'étais jeune à la maison. Alors, hier, vous savez, je vous ai parlé la semaine dernière ou il y a deux semaines d'aller au musée, d'aller au musée, d'aller au musée. Donc, je me suis payé la traite, je suis retourné voir parce que c'était la dernière journée manifesto. La magnifique exposition où Kate Blanchett tient 13 rôles différents dans des mini-films. C'était extraordinaire. Et plein de monde, malgré la tempête. Bravo, il y avait tous les Montréalais dans les musées. Alors, en parlant de musée, j'ai un musée qui est assez... il date de très longtemps, mais c'est un musée de l'ingéniosité. C'est le musée J. Armand Bombardier à Valcourt. Je vous invite à aller visiter ce musée. Depuis près de 5 décennies, le musée œuvre à sa mission culturelle et éducative, faire vivre l'héritage de Joseph Armand Bombardier, fondateur de l'entreprise éponyme. Si une certaine nostalgie entoure le garage original dans lequel Bombardier a conçu ses premiers modèles de véhicules glissant sur la neige, les expositions permanentes et temporaires célèbrent aussi le génie créatif québécois actuel. Au fil du temps, l'offre muséale a su se renouveler et s'adapter aux réalités modernes. Par exemple, l'exposition temporaire « Nature inspirante » techno-inspiré, le biomimétisme et le transport met en lumière ce concept d'ingénierie s'inspirant de techniques animales pour le développement ou l'amélioration de leur système, pour se souvenir qu'un rêve peut devenir réalité.
Nombre record de visiteurs au musée d'Auschwitz en 2018 de l'agence France Presse. Un nombre record de 2 millions 152 visiteurs du monde entier se sont rendus en 2018 dans l'ancien camp dans l'ancien camp d'extermination nazi-allemand d'Auschwitz-Birkenau, soit 50 000 personnes de plus qu'en 2017, l'année record précédente a indiqué vendredi le site du musée. Environ 80% de ces visiteurs étaient accompagnés par l'un des 320 guides éducateurs du musée parlant une vingtaine de langues. Quelque 405 000 Polonais ont visité le site l'an dernier, suivi de 281 000 Britanniques, 136 000 Américains, 116 000 Italiens, 95 000 Espagnols, 76 000 Allemands, 69 000 Français et 65 000 Israéliens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 1 100 000 personnes, dont près d'un million de Juifs, ont été tués par les nazis dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, installé dans le sud de la Pologne occupée entre 1940 à 1945. Les autres victimes furent surtout des Polonais non-juifs, des Tziganes et des prisonniers soviétiques. Et je continue avec un petit texte. Venise fera bientôt payer un billet d'entrée à ses visiteurs. C'est un autre genre de tourisme. Donc, Venise pourra, dès l'été prochain, faire payer un billet d'entrée à tous ses visiteurs, une taxe de 2,5 euros à 10 euros selon la saison, devant servir à limiter le tourisme de masse qui asphyxie la ville. La mesure introduite dans la loi de finances italienne, définitivement votée depuis 2 semaines, prévoit que Venise pourra, à partir de juillet, adopter dans ses propres mesures budgétaires une contribution de débarquement, telle qu'elle existe déjà dans les îles éoliennes et de Lampedusa, en Sicile. Déjà qualifiée par les médias de taxe de débarquement, cette contribution s'appliquera à tous les visiteurs, qu'ils passent ou non la nuit sur la Sérénissime, ce qui représente environ 30 millions de personnes chaque année. Elle vise d'abord les touristes d'un jour qui ne s'acquittent pas de la taxe de séjour due par personne et par nuit et réglée aux hôteliers et aux propriétaires de logements loués. Parmi eux figurent notamment les clients des croisiéristes dont quelques 600 navires géants font escale chaque année dans la cité des Doges, mais les compagnies aériennes ou les autocaristes pourront aussi répercuter la nouvelle taxe sur leurs billets. Selon leur première estimation de la commune, la taxe pourra lui rapporter jusqu'à 50 millions d'euros par an.
Alors, pour ceux qui sont sur la côte nord à Bécomo, c'est le festival de cinéma Bécomo et cette île. Janvier amène le cinéma d'ici et d'ailleurs sur la côte nord. Des films de toutes sortes, qu'on voit malheureusement rarement en région, sont présentés à Cinoche, le Festival du film international de Bécomo, et Ciné 7, le Festival du film de Sept-Îles. Une grande place est faite aux films québécois. Il y a aussi des activités parallèles, telles que projections extérieures sur un écran de glace, les soirées de court-métrage, les quiz sur le cinéma et les projections scolaires. Plusieurs artistes sont sur place pour rencontrer les festivaliers et discuter de leur processus de création. Les deux festivals se tiennent simultanément pendant 10 jours, à la fin janvier. Voilà, c'est ce qui met fin à cette première partie de l'émission. Nous revenons après la pause. Bienvenue, re-bienvenue à l'émission Les Voix de service. Dans cette deuxième partie, nous avons commencé par les cantons de l'Est, mais je vous amène sur la Côte-Nord avec un regard sur un Québec méconnu. Et nous ferons aussi un petit carnet de route dans la région de Lanaudière. Et vous?
Alors, je disais tantôt un peu à l'avance que je voulais parler des chiens qui sont autorisés à gambader dans les parcs, dans certains parcs de la CEPAC. Et ensuite, je vous parlerai des plages qui sont peut-être menacées ou non par le temps qui passe.
Alors, toujours dans le Tour du Québec, c'est un texte signé Sarah Iris Foster. Regard sur un Québec méconnu, la Côte-Nord est l'une des rares régions québécoises où une partie de la population vit dans des villages non reliés par la route. Le documentaire Les Coasters, et je vais revenir parce qu'il est présenté à Unitélé demain soir, Les Coasters nous permet de traverser de l'autre côté du bout de la 138 pour découvrir ce magnifique territoire et les gens qui y vivent. La basse Côte-Nord se situe entre Kegaska, là où la 138 s'arrête depuis 2013, et Blanc-Sablon, à la frontière du Labrador. Un territoire d'environ 400 km et quelques 5000 personnes vivent dans une quinzaine de communautés anglophones, francophones et inoues. Les Coasters, le nom du documentaire de Nicolas-Alexandre Tremblay et Stéphane Trottier, est en fait le surnom des habitants de la Basse-Côte-Nord. Peu d'informations circulent sur cette partie de la province et quand on en parle, c'est trop souvent en insistant sur la baisse de la population, les difficultés économiques et le prolongement de la route 138 qui est attendue depuis des décennies, mais qui se fait à pas d'escargot. Tout cela est abordé dans le documentaire, mais heureusement pour une fois, l'accent est mis sur le positif, sur le sentiment d'appartenance des Coasters envers leur région et sur le rythme de vie qui vogue selon les saisons. Pendant 87 minutes, on rencontre plusieurs personnages de cultures et d'âges variés et on se promène avec eux en mer, sur la route blanche, dans les carnavals et dans les maisons. On sort de la région à quelques reprises pour suivre certains protagonistes en ville, que ce soit pour les études, le magasinage ou pour parler de leur histoire. Ne vous attendez pas à un exposé sur chacune des communautés de la région, car on se concentre plutôt sur les gens qui l'habitent et qui nous font découvrir leur basse Côte-Nord. Certains sentiront probablement qu'il y a en fait plusieurs documentaires dans ce film, mais c'est ça, la Basse-Côte-Nord. Trois cultures qui cohabitent, avec comme lien ce territoire immense et magnifique qu'on parcourt en bateau, en motoneige ou en avion. C'est peut-être lui le personnage principal du documentaire, le territoire, ce Québec isolé, fier et débrouillard qui vit au rythme de la nature. La création de ce documentaire a été un défi logistique pour les réalisateurs qui n'étaient jamais allés à cette île, à l'est de cette île, avant ce projet. Le défi du documentaire, c'est la forme qu'on a décidé de lui donner, que ce soit sur plusieurs saisons, avec plusieurs gens, dans plusieurs communautés éloignées, explique Stéphane Trottier. Les seules balises de départ étaient qu'il se concentrerait sur les villages non reliés par la route et qu'il voulait couvrir les trois cultures de la région. Le reste allait dépendre des gens rencontrés lors du repérage. Au deuxième voyage, ils ont participé au 90e carnaval de Harrington Harbour, ce qui a confirmé leur intérêt à faire ce film, malgré le financement qui était toujours incertain. Ce sont 7 voyages en toute saison qui ont été nécessaires pour la création du film. Est-ce que faire un projet comme celui-ci dans un coin qu'on ne connaissait pas au départ modifie sa vision du Québec? Les deux réalisateurs se disent maintenant plus curieux et sensibles par rapport aux réalités des communautés autochtones. Ainsi, Nicolas Alexandre a apprécié en apprendre sur les minorités anglophones au Québec. À Montréal, on le voit, mais de voir comment ça se passe en région, c'est super intéressant. Il y a un journaliste qui nous dit que son regard de nouvelle résidente de la Basse-Côte-Nord, mais elle a vu un documentaire qui dresse un portrait réaliste d'un mode de vie ponctué par la météo, les fêtes communautaires et surtout ce lien fort qui unit les coasters à leur chez eux, toutes générations confondues. Voilà pour ceux que ça intéresse, c'est demain à 9h, c'est ce soir, le 21 janvier, oui, on est le 21, donc c'est le 21 janvier à 21h sur UniTV et uni.ca, ceux qui sont intéressés à voir ce documentaire, les Coasters.
Chien à la CEPAC, quelques ratés malgré un bilan positif. En général, le projet pilote de la CEPAC autorisant la présence de chiens dans certains parcs québécois s'est bien déroulé et les propriétaires de chiens ont été respectueux. Il y a quand même eu quelques ratés, sans compter un certain nombre de relâchements, un certain relâchement au fil des mois, c'est ce que montre le bilan du projet pilote. Entre autres, on note une dizaine de morsures, des centaines de chiens en liberté, des propriétaires qui ne ramassent pas les excréments de leur animal. C'est en 2016 que la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, a mis en place le projet pilote dans les parcs d'Oka, de Frontenac et de la Jacques-Cartier. Le projet s'est poursuivi en 2017, puis en 2018 avec l'ajout des parcs d'Aiguebelle et du lac Témiscouata. Les règles étaient strictes, les chiens n'étaient pas admis dans tous les sentiers ou sur tous les sites de camping. Ils devaient être tenus en laisse et les propriétaires devaient ramasser les excréments de l'animal. Après l'analyse des résultats du projet pilote, la CEPAC a annoncé en octobre dernier qu'elle allait autoriser les chiens dans certains secteurs dans la plupart de ses parcs à partir du 17 mai 2019. Il y a quand même eu quelques événements malheureux en cours de route. Soit une dizaine de morsures, dont 6 au parc d'Oka. Un chien a fait une feinte d'attaque à Oka. Un chien en a attaqué un autre à Jacques-Cartier. Et un chien a tenté d'attaquer un porc épic dans le même parc. Les événements recensés impliquant des agressions, morsures, attaques, etc., bien que malheureux, sont isolés et non représentatifs du quotidien entre les chiens et la clientèle des parcs nationaux. Néanmoins, 60 personnes, visiteurs et employés, ont rapporté avoir été témoins d'un comportement agressif de la part de chiens. Il faut toutefois noter que la CEPAC a enregistré 19 481 chiens dans les parcs participant au projet pilote. Les événements négatifs sont effectivement peu nombreux compte tenu du nombre de chiens, ce qui a entraîné le plus de constats négatifs au cours des 3 années du projet, c'est la présence de chiens dans des endroits non autorisés et l'absence de laisse. Ainsi, 541 personnes ont fait état de la présence de chiens dans des endroits non autorisés et 427 ont constaté que des chiens étaient sans laisse. La question de la laisse est importante. Les études ont montré que tenir un chien en laisse diminuait de façon importante son impact sur le milieu naturel. Il n'est pas en mesure de pourchasser un animal sauvage et il doit demeurer sur le sentier. Le projet pilote a montré que la très grande majorité des propriétaires respectaient cette règle, soit entre 93 et 95% en été et en automne. Toutefois, en hiver, le tiers des chiens ne sont pas tenus en laisse. On peut penser qu'une plus faible fréquentation par la clientèle en hiver et un plus faible risque de croiser un garde-parc peut résulter en un respect moindre de la réglementation, avance-t-on dans le bilan. Le comité de suivi mis sur place par la CEPAC a d'ailleurs recommandé d'interdire les chiens durant la saison froide, soit entre l'Action de grâce et la fête des Patriotes. Ce comité, formé d'experts qui ne font pas partie de la CEPAC, chercheurs, vétérinaires, etc., s'est d'ailleurs inquiété de voir dans certains cas, dans certains parcs, un relâchement des mesures de suivi de la réglementation au fil du temps. Ces mesures, qui assument en bonne partie l'observance des règlements, devraient être maintenues et les ressources pour se faire au rendez-vous. les membres du comité, le taux de conformité a d'ailleurs diminué dans des parcs d'Oka et de la Jacques-Cartier au cours des 3 années du projet pilote. Au parc de la Jacques-Cartier, par exemple, on a observé 15% des chiens sans laisse en 2018 contre seulement 5% en 2016. Le bilan dressé par la CEPAC ne note aucune mort d'animal sauvage qui puisse être attribuée à la présence de chiens. La CEPAC a également cherché à savoir si la présence de chiens dans les campings avait un impact sur les espaces fauniques présents dans le secteur. Des enregistrements de sons n'ont cependant pas permis d'observer une différence entre les secteurs où les chiens étaient permis et ceux où ils ne l'étaient pas.
Attache ta tuque avec de la broche, chérie, l'hiver va être tough cette année. C'est fini le temps des brioches, on mange de la misère pour souper. Faut que je fasse poser mes pneus d'hiver sur mon bazou couvert de rouille. Avec le gaz qui est toujours plus cher, ils savent qu'ils nous tiennent par les couilles. Joue dans le trafic à tous les matins, avec des millions d'êtres humains qui se battent pour un pouce d'autoroute, sans trop se demander ce qui est au bout. Tout seul au fond de leur voiture, chantonnant des balades FM, sachant comme moi que la vie c'est dur, mais qu'il faut continuer la game. Bon, merci, un accident de troc et ça roule par choc, un gros chute métropolitain, jamais bien raide au quotidien. Le gars qui se fait barrer de chemin, klaxonne en brandissant son poing, comme un lion au fond d'une cage, poigné dans les sans bouteillage. Allez, honnête, les citoyens qui rêvent de plage et de clumette au milieu de l'hiver canadien. Votre boulot est le seul remède, mais soyez quand même aux aguets, car le burn-out vous court après. Tu travailles trop, mon petit chemin, tu vois même pas ta vie passer. La terre entière carbure au fric, ça a l'air qu'on n'est pas tant gamique. Parce que dans le monde des gens importants, y'a pas grand place pour les perdants. Ils se contentent de nous balancer à tous les heures du jour ou de la nuit toutes leurs conneries de publicité, pis ce qu'ils ont à nous vendre comme bullshit. En stationnement des centres d'achat, c'est encore le branle-bas de combat. Des chars à 1 000 à la ronde, pis des magasins noirs de monde. Le Père Noël vient de débarquer, on n'est même pas à mi-novembre. Le petit Jésus doit être déprimé, les vendeurs sont revenus dans le temps. Payez plus tard, achetez maintenant Interac ou Argent Comptant, Visa, American Express, j'en dose même les chèques de BS. Suis le marchand de cochonnerie, le vendeur de rêves à bas prix. American Dream en personne, c'est pas cher pour avoir du fun. Allez, entrez leurs parents dans l'ouïe pour acheter une belle bagnole. Pas d'intérêt pendant un an, puis ton cul sur les sièges chauffants. Vos biplates seront transformés par mes illusions emballées. Si jamais t'es pas content, ici y a pas de remboursement. J'loue ma vie à un employeur, à coup de journée pis de coup de sueur. Quand j'pense qu'on fait toute la putain pour pouvoir se payer des cossins, ils se rendent compte qu'un petit rien tout neuf, ça rend pas le cœur plus joyeux. Parce que le bonheur de toute façon s'achète pas d'une boîte de carton. Sauf que devant mon verre de bière vide, ma gorge est une terre aride. Ça me prendrait donc un petit remontant pour faire passer mon mauvais temps. Mais j'ai pas une scène dans les poches, c'est tout le temps même quand l'hiver approche. We'll be right back.
La formation lanaudoise Les Cowboys Fringants qui nous chantait L'hiver approche, quoique l'hiver est déjà arrivé, on ne put s'en rendre compte au cours des dernières heures, des dernières journées.
Ah bon?
Et pour continuer la tournée dans la Naudière, tout est dans tout, je vous amène à l'abbaye Val-Notre-Dame, qui est au 250 chemin de la Montagne Coupée à Saint-Jean-de-Mata. L'année 2019 signera le 10e anniversaire de l'arrivée des moines de l'abbaye d'Oka au pied de la Montagne Coupée à Saint-Jean-de-Mata, tout près des artisans de la ferme Vallée Verte. Le domaine de l'abbaye Val-Notre-Dame a bien des atouts à offrir, outre ses sentiers pédestres et ses paysages magiques de monts, de collines, de chutes et de la rivière L'Assomption. Les moines qui travaillent de leurs mains et prônent le silence depuis des siècles utilisent les produits comestibles de la forêt pour fabriquer une gamme de produits du terroir. Au magasin de l'abbaye, on retrouve des confitures, des terrines, des caramels, des huiles et vinaigrettes, des pains ainsi qu'une variété d'épices, de condiments et de moutarde. En plus des plaisirs gastronomiques offerts, l'église du monastère est ouverte en tout temps pour ceux qui souhaiteraient se recueillir. Et ensuite, on s'en va à La Valtrie, au café culturel de la Chasse-Galerie. La Chasse-Galerie, c'est un bon refuge pour les gens qui cherchent à passer une belle soirée en humour ou en musique dans un endroit chaleureux. Situé à quelques pas du fleuve Saint-Laurent, le café culturel est une coopérative de solidarité misant sur la culture, le talent régional et la convivialité. Il est très accessible puisqu'il est situé à environ une heure de Montréal et tout près de l'autoroute 40. La bâtisse centenaire accueillait jadis une écurie. Aujourd'hui, c'est une petite salle de spectacle bien intime de 80 places avec un balcon et un bar qui encourage les produits locaux comme les bières de l'alchimiste. Pendant la saison estivale, il y a aussi des concerts sur la terrasse pour vivre des moments inoubliables. On retourne à Saint-Jean-de-Mata, qui sème récolte. Situé sur le rang Saint-Guillaume, tout près de la route 131 qui traverse Saint-Jean-de-Mata, qui sème, récolte, c'est plusieurs choses annexées dans un verger et une érablière. Du verger, l'entreprise récolte une vingtaine de variétés de pommes ainsi que des petits fruits. Il y a ensuite production de cidre, de confiture, de gelée et de jus. De l'érablière, l'entreprise produit du sirop et du beurre d'érable, du caramel, des bonbons et autres sucreries. Sur le terrain, dans la boutique accueillante, on retrouve tous ces produits à base de fruits et d'érable, mais aussi les mayonnaises concoctées par la cuisine Poirier. En vente partout au Québec, cette mayonnaise est tout ce qu'il y a de plus naturel, sans agent de conservation, ni gluten ou produits laitiers. Et je termine avec mon petit coup de cœur, c'est Simon Turcotte, le confiturier que vous trouvez partout. Il vient de Sainte-Marceline de Kildare, Sainte-Mars pour les intimes comme moi. Le joliétain Simon Turcotte a une carrière de confiturier qui s'échelonne maintenant sur presque 20 ans. Il a d'abord œuvré sous le nom d'entreprise en robe des champs jusqu'en 2009, avant un changement d'image de marque. Les produits sont concoctés avec beaucoup de créativité, confiture de poire, vanille, pamplemousse, confiture de canneberge, orange, poivre de Sichuan, gelée de pommettes ou basilic frais. L'entreprise travaille principalement avec des fruits du Québec et depuis 5 ans, elle offre aussi des moutardes au réfort et à la fleur d'ail, entre autres. Les produits sont distribués dans 150 points de vente. Le confiturier a une boutique sur la rue principale du charmant village depuis 2010. En septembre, Simon Turcotte, confiturier, lançait aussi une délicieuse confiture aux cerises de terre. Et voilà, c'est ce qui met fin à cet article qui vous donne le goût de manger.
Des vacances à la plage sont-elles menacées? C'est de Daniel Blanchette-Pelletier, Radio-Canada. Les beaux jours de vacances passés sous le soleil et les pieds dans le sable sont peut-être comptés. Dans certaines régions du monde, des plages s'érodent, d'autres disparaissent sans laisser de traces. Que se passe-t-il? Peu d'études se sont intéressées à l'évolution des plages à l'échelle mondiale, jusqu'à la publication au printemps dernier d'un rapport d'analyse basé sur des images satellites saisies de 1984 à 2016. une équipe de chercheurs néerlandais a constaté que le quart des plages de sable autour du monde s'érode à des rythmes variables. Leurs données contrastent avec des évaluations plus alarmistes selon lesquelles jusqu'à 70% des plages mondiales montraient des signes d'érosion. Ces études menées il y a 40 ans n'étaient basées que sur des évaluations et des témoignages, explique Arjen Luijendijk, excusez mon néerlandais, un expert de l'organisme indépendant Deltar, qui étudie les deltas, les bassins fluviaux et les côtes. L'autre raison, poursuit le chercheur néerlandais, c'est que nous avons décidé à plusieurs endroits de nourrir les côtes en sable pour contrer cette érosion. Si vous prenez en considération le comportement des plages au fil du temps, la majorité sont stables ou en croissance. Même où la côte est en érosion, l'humain a freiné ou annulé la tendance. L'Afrique et l'Australie sont les deux continents où les plages s'érodent davantage qu'elles croissent. Mais à l'échelle locale, certaines vastes plages des États-Unis reculent plus rapidement. Le bouleversement mondial des plages n'est pas de cause unique, il est attribué à des facteurs tant naturels qu'humains. L'extraction de sable est notamment montrée du doigt. En Chine, le dragage du fleuve Yangtze a été partiellement interdit pour limiter l'impact environnemental. Les entrepreneurs se sont cependant tournés vers un lac qui l'alimente pour combler leurs besoins. La hausse du niveau des océans et les catastrophes naturelles, exacerbées par le réchauffement climatique, pèsent lourd aussi sur la survie des plages. On estime que chaque fois que le niveau marin gagne un centimètre, les côtes et les plages perdent environ un mètre. Les tempêtes tropicales et les ouragans qui secouent les côtes engloutissent également avec elles une importante quantité de sable en mer. C'est le cas en Floride et c'est aussi pourquoi les États-Unis sont particulièrement touchés par l'érosion des plages, croit le chercheur néerlandais. Les pays qui perdent du sable, surtout sur la côte est et dans le golfe du Mexique, perdent même des îles entières en raison de ces tempêtes, rappelle-t-il. East, une île d'Hawaï, a par exemple été rayée complètement de la carte en octobre par l'ouragan de catégorie 5 Walaka. Lorsqu'on joue sur l'équilibre très sensible de l'épaisseur du sable sur la plage, tout peut changer. L'important, selon le chercheur Christian Fraser de l'Université du Québec à Rimouski, c'est de surveiller par satellite l'évolution des côtes et des plages pour voir comment et à quel rythme la planète se transforme.
l'automne. Les larmes aux yeux, ils disent adieu avec l'espoir d'un retour. Blue jeans sur la plage, le vent de la grève viendra effacer leur rêve. Blue jeans sur la plage, leurs cœurs sont encore chauds de tous ces serments.
Un petit peu de nostalgie ce matin. Blue Jeans sur la plage, la formation Les Hoolops.
J'ai même vu Diane qui rougissait.
Bon, alors, c'était ça ou tout nu sur la plage, les trois accords. Alors, après avoir fait manger, je vais vous faire boire, même s'il est que 10 heures le matin. Je vous parle de la microbrasserie Alchimiste. J'en avais parlé dans un texte précédent. Elle est située à Joliette. Avec la multiplication des microbrasseries au Québec ces dernières années, il est de plus en plus difficile de faire un choix. C'est un beau problème, mais parmi la grande offre de bières offertes en dépanneur partout au Québec, celles produites par l'Alchimiste résistent à la compétition et demeurent une valeur sûre en matière de qualité. L'équipe installée à Joliette depuis la fondation de l'entreprise en 2001 mise sur la constance et la fraîcheur. Les quatre bières incontournables sont la Claire, la IPA, la Bock de Joliette et l'Écossaise. Dans les bières à découvrir, on retrouve également le East Bock, qui est une bière forte de glace liquoreuse, fouillez-moi, l'Imperial Stout et la Légitime, une bière de soif blonde. Que dire de plus? Santé!
En Chine, la ville de Harbin tient son 35e festival international de sculpture de glace. La 35e édition du festival international de sculpture de glace de Harbin a commencé le 5 janvier dans la capitale de la province du Heilongjiang, au nord-est de la Chine. Il se terminera le 28 février. Alors, le festival présente plus de 100 événements, mettant en vedette le tourisme hivernal, la culture, les arts, la mode, le commerce et le sport. Plus de 2000 sculptures féeriques de glace et de neige ont été construites. Ils n'y vont pas là, avec des petites choses.
À la petite cuillère.
Non. 30 activités interactives ont également été conçues. Les touristes peuvent profiter d'un spectacle de projection 3D sur neige, une prouesse technique. Ils auront aussi la chance d'admirer des lanternes de glace et de nombreux concerts.
Voilà. Merci Jean-Charles. C'est ce qui met fin à cette émission. Jean-Sébastien à la régie. Bravo pour être sorti de votre terre bonne. Nous, c'est plus facile. Nous sommes à pied en métro.
Oui.
Donc, c'était Diane Pilote et Jean-Charles
Algan
au micro. Et nous vous revenons la semaine prochaine.
À
merci
la semaine
beaucoup.
Prochaine.